les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 ah, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Ricardo, t'as tout essayé aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on était pour cuisiner.
Pour faire un beurre clarifié, c'est très simple. Dans une casserole, on fait fondre doucement une bonne quantité de beurre. Même lorsqu'on est pressé, c'est possible de manger un classique de la cuisine italienne. Je vais vous faire une sauce bolognaise minute. J'aime beaucoup les moules parce que c'est pas dispendieux et on peut les apprêter d'une multitude de façons.
J'adore la saveur des fruits grillés sur le barbecue. C'est très simple à faire. Pour les fruits comme les pêches, les prunes ou encore les mangues, on coupe le fruit en deux, on retire le noyau, mais on ne le pèle pas. Vous pouvez mettre un trait d'huile végétale ou d'olive même, si vous voulez, sur vos fruits. Comme ça, ils colleront pas et la saveur sera pas changée. Et là, on va les mettre à plat sur la grille. Et pour pas que les fruits soient trop cuits, grillez-les d'un seul côté. Wow!
Attention, chers auditeurs, tous aux abris. Un Québécois vient nous donner des leçons de cuisine. Oui, un Québécois qui est une vraie talk star au Canada. Un Québécois que tout le monde appelle là-bas d'ailleurs par son prénom, c'est Ricardo. Ricardo, bonjour.
Hey, bonjour.
Ricardo Larrivé, c'est votre vrai nom?
Oui, absolument. Alors, parrain italien, c'est pour ça que j'ai hérité du prénom italien.
D'accord, donc effectivement, petite connotation italienne dans votre prénom. Ricardo, c'est une émission de cuisine sur la télévision de Radio-Canada, dont vous entamez quand même la 15e saison. Plus de 2000 shows culinaires à votre actif, on va le voir. Et puis Ricardo, c'est plein d'autres choses. Un univers immense en Amérique du Nord. Et Ricardo, c'est aussi un livre. Et vous êtes précisément de passage en France pour en faire la promotion. Je l'ai sous mes yeux. Ricardo, un Québécois dans votre cuisine. 125 recettes faciles et rapides. C'est aux éditions Larousse. Alors, on vous connaît pas trop, hein. Faut bien le reconnaître de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais ça pourrait changer assez vite avec ce livre plein de recettes faciles et rapides. On pourrait même rajouter recettes voyageuses, décomplexées, qui picorent un peu partout. Du vieux répertoire français jusqu'au fourneau de l'autre bout du monde. Et il en résulte une espèce de melting pot très inspiré, un peu une cuisine les doigts dans la prise. Vous allez nous présenter quelques joyeuses recettes sous influence québécoise ou pas d'ailleurs, et je promets notamment à nos auditeurs, oulala, attention, teasing, suspense, un dessert au chocolat qui devrait laisser des traces et pas seulement sur votre serviette. C'est un truc de dingue, rien que la photo fait envie, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'essayer à la maison dans le rôle des chroniqueurs et bien des chroniqueuses. Aujourd'hui, il y a d'abord Déborah Dupont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire, hein, on le sait, on commence à le savoir, vous venez régulièrement dans l'émission pour passer au crash test de nouveaux livres de recettes. Et au menu aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites 3 ou 4 fois par jour avec, j'espère, beaucoup de plaisir, François-Régis?
Beaucoup de choses, mais je mange notamment.
Voilà, ben donc on parlera effectivement d'un livre qui nous vient aussi du Canada et qui s'intitule 3 fois par jour.
Et vous n'êtes pas arrivé les mains vides, il y a également une recette.
Une petite recette qu'il a fallu que j'extorque à mon fils qui voulait tout garder pour lui ce matin.
Bon, on voit ça tout à l'heure, en tout cas on a hâte de la goûter, merci beaucoup. On accueille aujourd'hui une petite nouvelle dans la bande dont on va déguster. Bonjour Sylvie Augereau.
Bonjour.
Vous avez une double casquette Sylvie, d'un côté vous êtes auteur et journaliste autour du vin, et de l'autre, vigneronne quand même, sur les bords de Loire. Vous avez vraiment les deux facettes.
Ça fait du bien aussi, ouais.
Le vin, vous en parlez, vous le faites.
Voilà, et puis on est content aussi d'être un peu dehors et sur la terre.
Voilà, exactement. Et vous viendrez nous parler régulièrement dans cette émission, bah, Jaja, Glouglou, Pinard. Aujourd'hui, Sylvie Augereau, vous êtes un peu notre Miss Météo de la vigne, mais vous ne parlez pas que de beau temps.
Je n'ai pas que des bonnes nouvelles, non. Ouais. Mais ça, c'est des souvenirs.
Avec quand même une petite dégustation à la clé.
Et oui, quand même, récompense.
Parfait. En régie, pour mitonner cette émission, Michel Billou avec Gaël Braouezek, Nadia Chougui pour la préparation de l'émission, Djoubaka pour la programmation musicale. Retrouvez-nous sur Twitter avec le mot-clé On va déguster, ou envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com. Juste avant de passer en cuisine avec Ricardo, quelques coups de cœur gourmands pour démarrer cette émission, c'est la tournée des popotes.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Démora, en ce dimanche, on peut encore profiter de la fête de la gastronomie se célèbre un peu partout en France et notamment à Lyon.
Tout à fait, François-Régis. Si je vous dis gastronomie mobile, cuisine nomade itinérante, à quoi pensez-vous?
Les cuisines de rue.
Cuisine de rue.
Street food en bon français.
Exactement. D'accord. Street food, l'anglicisme est effectivement plus connu. Depuis vendredi, une trentaine de chefs spécialistes ou non de cette thématique ont envahi le site des subsistances sur les quais de Saône à Lyon. Je ne sais pas si vous voyez, vous êtes quand même très familier avec cette ville. Mm-hmm. Donc une très belle verrière, une belle halle.
Absolument.
Et donc autour du thème de la street food et plus particulièrement de Hong Kong.
D'accord, street food hongkongaise.
Alors, street food hongkongaise, mais pas que, d'accord, avec des chefs lyonnais, donc mm-hmm, qui peuvent être spécialistes ou non de la thématique, puisqu'on retrouve, par exemple, cet après-midi, donc le chef du café Sillon proposera une tempura de riz de veau, salade d'herbes, sabayon, matcha et nori.
Absolument. Mathieu.
Mathieu. Joseph Viola viendra avec son célèbre pâté croûte. Mm-hmm. Vous aurez aussi Tabata et Ludovic May pour les apothicaires. Vous aurez aussi Hubert du Substrat qui lui servira un wok de champignons et nouilles aux légumes, gingembre et oignons croustillants. Ça a été vraiment organisé d'une manière très pensée pour les familles. Donc mm-hmm, venez avec vos enfants sans aucune hésitation. Il y a une mini-ferme, un marché de producteurs, des concerts, des ateliers culinaire bien évidemment, mais pas que, puisque des initiations à la K-pop coréenne, mm-hmm, des initiations aussi à la calligraphie, aux arts martiaux. L'entrée est à 5 euros,
d'accord,
les portions sur les stands pour déjeuner sont entre 4 et 5 euros, mm-hmm, et ça dure jusqu'à 20 heures au 8 quai Saint-Vincent, dans le premier arrondissement de Lyon.
Profitez-en, aujourd'hui la street food est à la fête, effectivement à Lyon, avec visiblement une belle brochette de chef. Hein.
Très belle.
Ça fait plaisir, on va y aller, toutes les infos sur notre site franceinter.fr à la page On va déguster. Mon adresse de la semaine aujourd'hui, cap sur Biarritz. Je suis allé faire un peu de surf sur la nouvelle vague culinaire qui déferle en ce moment à Biarritz. Et oui, il s'en passe de belles et de bonnes dans cette station balnéaire de la Côte Basque. Alors, on vous parlait déjà cet été de Chéri Bibi, la jolie table épicerie cave de François Lemarié. Vous connaissez Sylvie?
Oui.
François Lemarié et sa femme Fanny, je pense que vous connaissez effectivement, parce que la sélection des vins d'auteur est assez épatante. Effectivement, chez Chéri Bibi à Biarritz, c'est dans le quartier Beau Rivage. Et je vous parle, moi, d'un bistrot qui a affiché complet tout l'été après avoir ouvert au printemps. Ça s'appelle l'Entre-deux, un petit vol de mouette du front de mer, tout près du centre-ville. L'Entre-deux, c'est l'affaire de deux garçons, deux copains d'enfance, qui ont grandi à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Il y a d'abord Benoît Escal, qui a fait ses classes chez le chef Jean-François Piège, à Paris. Un chef d'ailleurs tout jeune, 29 ans, qui a obtenu une étoile il y a quelques années au Zocomoco, son ancien restaurant de Saint-Jean-de-Luz. Et son copain d'enfance, c'est Jean Van de Velde, c'est son associé. Il virevolte en salle, entre la cuisine ouverte, la grande table d'hôte en chêne massif, il y a un sol en carrelage, c'est assez joli. Imaginez comme ça une espèce de genre de loft moderne, très confortable et très lumineux. Et ce qu'il y a d'encore de plus lumineux, c'est le contenu des assiettes, puisque ça envoie du lourd, des plats précis, bien dressés, cuisson juste, assaisonnement pointilleux, produits d'extraction locale. On a commencé avec un hommage du chef à son mentor Jean-François Piège, dont il a piqué une amusante recette, elle vous dit peut-être quelque chose. C'est de la sèche de la Côte Basque, taillée en tagliatelle, caressée par une cuisson douce et traitée façon carbonara. C'est-à-dire qu'il découpe vraiment la sèche, comme des tagliatelles de pâte sèche.
Wow.
C'est le cas de le dire, des pâtes sèches. Sauf que là, la sèche, on parle vraiment de du mollusque. Et il les traite avec une sauce au parmesan, de gros lardons croustillants, un jaune d'œuf. C'est une recette que faisait Jean-François Piège à Paris, qu'on retrouve dans ce bistrot de Biarritz. Et franchement, c'est une recette illusionniste qui est très réussie. Ça vous inspire ou pas, Ricardo?
Absolument. Il y a quelques années, il y a un festival à Montréal, Montréal en lumière,
oui,
l'hiver en février, quand justement on a besoin d'un peu de lumière et de chaleur, mm-hmm, et un chef avait fait un truc de ce genre-là, puis c'était fabuleux.
C'était pas Jean-François Piège, non?
C'était pas, alors imaginez si vous allez le manger chez lui.
En tout cas, c'était un très joli plat. C'est la jeune pâtissière Émilie Roche qui se colle au dessert et elle faisait ce jour-là un finger citron verveine, genre de tarte au citron en étage avec ce qu'il faut de moelleux dans les textures, de vivacité dans les goûts. Franchement, très intéressant. J'ai tendu la carte des vins à notre amie Sylvie Augereau. Qu'en avez-vous pensé? Vous faites un peu la grimace.
Elle m'est pas tombée des mains, mais bon, elle est pas très joufflue. Mmh. Voilà. Elle est pas très joufflue.
Carte des vins des débuts.
Moi qui suis quand même ligérienne. Et un petit peu accroché à ma région.
Vous êtes un peu laissé pour compte sur cette carte?
Ouais, j'ai trouvé un Mentou Salon en rouge.
D'accord.
Aïe. Et puis un Muscadet en blanc.
Oui.
Enfin, les grands blancs de Loire.
C'est vrai.
Et bon, voilà, je suis vexé, mais on va mettre ça sur le compte de la jeunesse.
D'accord.
Voilà. Après, il y a quelques valeurs sûres. Hein, voilà, un joli cornasse, quelques vins espagnols aussi, c'est bien.
Mm-hmm.
Voilà, dont un Rioja du trio Combi, Fischer, Gérin, qui est pas mal.
D'accord.
Il y a aussi quand même il y a 10 vins au verre.
D'accord.
Ça, c'est simple.
L'offre est plutôt étoffée.
Voilà.
D'accord.
Et puis, si, il y a quand même un truc que j'avais envie de boire. Ouais. Voilà. Et c'est, en plus, c'est des voisins à eux. C'est à Jurançon. Oui. Donc, c'est une petite appellation dont on parle pas beaucoup.
C'est
mais
vrai.
Très, très identitaire et avec des vrais cépages qui parlent.
Mm-hmm.
Voilà. Donc là, c'est le vin de Kamal Radia, de Jean-Marie Grussaut.
Absolument. Et je l'ai goûté, moi, en sec à l'apéritif.
Bon.
Et c'est vraiment
ouais,
très
voilà.
Chouette.
C'est quelqu'un qui avance vraiment bien et un vigneron humble comme on les aime et très accroché à son terroir vertigineux.
D'accord. Bon, carte des vins, peut mieux faire. À l'entre-deux, le bistrot moderne de Benoît Escal et Jean Van de Velde. On est au 5 avenue Maréchal Foch à Biarritz. Avec un premier menu au déjeuner à 20 euros. Alors 20 euros, bon, c'est pas 11 euros, c'est pas 12 euros, c'est 20 euros. Ça reste quand même une somme, mais c'est une belle affaire pour un menu qui cuisine notamment de la pêche locale. Vous voulez préparer des scones pour votre brunch? Ricardo s'en occupe sur France Inter dans un instant, juste après. Chanson d'été, Dionysos.
Voici une technique pour réaliser une pâte à scone à la main. Dans un grand bol, versez tous les ingrédients secs. Ajoutez le beurre froid coupé en dés et à l'aide d'un coupe-pâte, mélangez le beurre et coupez-le jusqu'à ce qu'il ait la grosseur de petits pois.
Quand Ricardo, la star québécoise de la cuisine, met la main à la pâte pour préparer des scones. Avec l'accent québécois, ça donne des scones.
Des scones.
Des scones, c'est ça, j'adore. J'adore votre accent, je ne m'en lâche pas, Ricardo. Vous êtes là en chair et en os, de passage dans notre studio de la Maison de la Radio. Rappelez-nous la définition d'un scone.
En fait, un scone, c'est une espèce de petit biscuit, ouais. Mais plus levé, moelleux, c'est très britannique. Faut savoir que le Canada fait partie du Commonwealth, alors on a vraiment plusieurs traditions britanniques, même si nos bases culinaires sont françaises. Donc le scone, c'est le truc du petit déjeuner, le week-end, c'est parfait parce que on peut les faire, on peut les congeler, on les réchauffe dernière minute, on peut varier les saveurs en ajoutant un peu de zeste, des pépites de chocolat ou encore des cranberries.
Ça tombe bien, il est 11h, c'est l'heure du brunch, Ricardo. Derrière le poste, on a certainement envie de bruncher un peu. Et à la page 21 de votre nouveau livre, Ricardo, qui débarque aux éditions Larousse en France, Ricardo, un Québécois dans votre cuisine, 125 recettes faciles et rapides. Faciles et rapides en plus, on va le voir, c'est vraiment pas une fausse promesse.
Non.
Eh bien, il y a cette recette de scone, et de scone aux cranberries, canneberge en bon français.
Ouais.
C'est cette cousine de l'airelle cultivez beaucoup au nord de l'Amérique.
Et quand on a adapté le livre pour la France, on a ajouté quelques mots anglophones.
C'est vrai. Parce que vous, les Québécois, vous dites plutôt canneberge que cranberries.
Ah oui, absolument. Je dis jamais cranberries. C'est vraiment, pour nous, c'est le mot anglais. Ceci dit, on comprend tous ce que c'est. Je veux dire, mais à la limite, on trouve ça joli. Mais la canneberge ajoute toujours une belle touche d'acidité.
Absolument.
Autant dans le sucré que le salé. Mmh. Et puis, qu'on la prenne sèche. Alors, à ce moment-là, elle est plus dessert, plus concentrée
en sucre,
en saveur aussi. Mmh. Et là, je trouvais que ça allait vraiment à merveille avec cette recette de scone-là.
On veut la recette immédiatement.
Alors, c'est hyper simple. Vous allez préchauffer votre four à 200 Celsius. Et là, vous pouvez le faire à
Celsius,
la main. 200
Celsius, on parle de degrés.
Degrés, oui, absolument. Oui, exactement. Donc, thermostat 6-7.
D'accord.
Vous pouvez le faire à la main, au coupe-pâte, encore au robot.
D'accord.
L'idée, c'est de ne pas réchauffer les morceaux de beurre dans la farine. Mmh. Un peu comme quand on fait une pâte brisée. Mmh. Vous voulez...
Faut pas trop travailler le beurre.
Non. Si on le travaille trop, le beurre va imbiber, si on veut, la farine. Et là, ça lève pas, ce sera pas aussi moelleux. Donc, on veut obtenir la grosseur d'un tout petit pois.
D'accord.
Alors, peu importe, encore une fois, lame, coup de pâte ou encore avec les doigts. Ma grand-mère faisait toujours ça avec ses mains. Et lorsque vous allez avoir mélangé le sucre, alors il y a 105 grammes de sucre, il y a 170 grammes de farine, deux cuillerées à café de levure chimique, une belle pincée de sel et 115 grammes de beurre. Vous allez obtenir vos petits pois et délicatement, avec le bout des doigts ou encore avec la pointe d'un couteau, on ajoute 180 ou millilitres ou 18 centilitres de lait fermenté, du ribot.
Ah, du lait ribot.
Ouais. Si vous en avez pas, vous pourriez prendre.
En Bretagne, qu'on trouve aussi dans les magasins bio.
Et c'est hyper populaire au Québec. Si vous en avez pas, vous prenez un peu de lait, juste un petit peu de vinaigre de cidre. On le fait tourner 5 minutes. Et puis
dans une casserole, en le réchauffant un peu.
Non, même pas. Température de la pièce. On oublie ça là, 5 minutes, et ça va vraiment bien fonctionner.
Très bien.
On mélange juste pour obtenir une pâte qui se tient. Vous voulez pas la travailler, cette pâte là. Dès qu'elle peut se tenir, cette pâte, vous allez la rouler délicatement. Je vous dirais 3-4 centimètres d'épaisseur. Oui. Et vous pouvez prendre un verre, un emporte-pièce, le couteau.
Et là, on découpe des ronds.
On découpe des ronds.
Donc, qui sont quand même assez, des petits pavés un peu épais.
Oui,
pour jouer au pavé sur glace.
Comme un pavé de saumon, la même épaisseur. Alors ça, vous allez... En français, on appelle ça un POC.
Un POC.
Oui, une POC.
En français du Québec.
Ah oui, c'est ça. Alors vous allez mettre vraiment vos petits pavés sur un papier sulfurisé au four.
Oui.
Vous pouvez glacer avec lait et du gros sucre.
D'accord.
Et 15-20 minutes maximum, ça va commencer à dorer. Et si vous les surcuisez, vous allez assécher la pâte. Mmh. C'est pas ce qu'on veut. Donc, cette recette...
Le temps de cuisson au four, à peu près?
15-20 minutes.
15-20 minutes, vous l'avez 15-20 dit.
Minutes. Et puis, 15 minutes de préparation, vous allez avoir vraiment quelque chose de superbe.
Impeccable. Et si on met des...
Canneberges
séchées, ça c'est dans la pâte juste avant.
Oui, juste au dernier moment. Mais là, ça peut être n'importe quel fruit séché, des figues, des dattes, des abricots. Prenez le fruit séché que vous aimez et qui est peut-être local aussi.
Ricardo, vous êtes une véritable star outre-Atlantique.
C'est fort.
Au Canada. En tout cas, vous êtes cuisinier, cuisiniste, journaliste, restaurateur, animateur, producteur. On l'a dit, Ricardo, c'est une émission de cuisine sur la télévision de Radio-Canada.
Oui.
Vous en êtes quand même à 2000 émissions quotidiennes.
2000 émissions.
Vous êtes rodé dans l'exercice.
Ouais, puis c'est bien parce que je fais ça chez moi, dans ma cuisine.
Oui.
Faut dire qu'on a plusieurs cuisines. Ma maison est organisée. On a 3 cuisines, je dis et demi.
C'est aussi votre studio
de
tournage.
C'est notre studio de tournage. Alors, je voulais avoir de l'espace pour voir je veux dire, j'ai quand même 3 enfants, puis je voulais qu'ils puissent avoir une vie
normale.
Un temps soit peu normal.
On peut retrouver d'ailleurs les vidéos de vos recettes sur votre site internet, un site internet aux millions de pages vues, ouais. www.ricardocuisine.com.
Oui, ricardocuisine.com, c'est le plus gros au Canada, je dis pas ça pour me vanter, mais c'est ça la réalité. Et il y a vraiment des milliers de recettes en français, en anglais, des vidéos, des trucs voyage.
C'est aussi...
Tout pour se simplifier la vie, hein, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'était pas de faire de la cuisine de chef, il y en a déjà des fabuleux. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans le quotidien? Comment est-ce que je peux réussir à convaincre des gens de dire, plutôt que de se prendre un surgelé ou de tout le temps aller au resto, bon, il y a tout le temps, il y a le budget, il y a le temps. Alors moi, je pense qu'en 20 minutes de cuisson ou de préparation, on peut avoir quelque chose de vraiment très bien.
Car vous êtes effectivement sur le principe d'une cuisine décomplexée. Ouais. On le voit d'ailleurs dans le magazine que j'ai feuilleté, Ricardo. C'est un magazine culinaire qui a beaucoup de succès également au Canada.
Ah ben je vais l'envoyer à la librairie Gourmand.
C'est mais ça. Avec grand plaisir.
Et je pense qu'il trouvera preneur, ça j'en suis sûr. Je vais tenter de résumer votre démarche culinaire. Okay. Si je dis que vous jetez un pont culinaire, un pont gastronomique entre la France, d'où viennent vos bases de cuisine, et le mondialisme culinaire de l'Amérique du Nord.
Vous avez entièrement raison. C'est exactement ça. Parce que nos bases sont vraiment très fortes en cuisine française au Québec. Mais comme la France, comme plusieurs pays maintenant, on est ouvert sur le monde et on a envie de garder nos traditions. Et c'est très important. Ce que je voulais aussi avec ce livre-là, c'était pas d'essayer de réinventer le monde. C'est de dire... Parce que c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit, de se sécuriser autour de trucs autour de la table que l'on connaît, que l'on aime, mais ça veut pas dire qu'on peut pas y ajouter une twist, quelque chose qui va le revamper un peu, il va donner une nouvelle saveur, une énergie différente.
Ah ça, question twist, et énergie, ça y va dans votre livre. Ah, on va le voir d'ailleurs à travers d'autres recettes. Ça vous fait quoi, Ricardo, de traverser enfin l'Atlantique pour entamer une carrière chez ces maudits Français?
Ah, on les aime tellement, les maudits Français, parce que, à quelque part, tu veux réussir n'importe où dans le monde. Mais il y a un endroit qui a une signification qui a rien à voir avec le fric, qui est émotive, ou à laquelle on est attaché, et c'est la France. Moi, je passe mes vacances depuis...
Ah oui?
Oui, je passe mes vacances...
Vous connaissez la France, mais pour des raisons, on va dire, privées et familiales. Hein.
Ah oui, absolument. Je vis en vacances ici pour les vacances d'été au Cap-Ferré, sur le bassin d'Arcachon, avec les enfants, la belle-mère, des amis. On fait ça tout le temps. Et puis, on a maintenant beaucoup d'amis en France. Mais là, j'attendais d'être prêt. Je voulais être à la hauteur. Je voulais pas décevoir autant mes amis français que les Québécois qui sont nombreux à venir en France, à rêver d'y travailler. Vous avez un fantasme des fois en France du Québec. Mais nous, on a le même, qui est pas, en fait, qui est différent. Alors, vous rêvez du sauvage, puis de la liberté, puis des couleurs, puis de tout ça. Chose que l'on a, mais nous, c'est une France qui est peut-être idyllique quand je jase avec des amis, mais on a ce besoin-là, je dirais, de venir ici, peut-être aussi de reconnaissance, parce que on parle de cuisine. La dernière chose qu'on peut faire et que je voudrais faire, c'est essayer d'apprendre à cuisiner aux Français. La France, c'est la cuisine.
Mais justement, on parlait des clichés qu'entretiennent les Français sur le Québec. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas avec cette petite peur au ventre d'être pris pour le Québécois qui va forcément cuisiner du caribou au sirop d'érable? Et d'ailleurs, je fais référence à un article qui vous a été consacré. Très bon article et très bon dossier d'une vingtaine de pages dans Elle à table.
Absolument.
Où vous êtes quand même surnommé...
Oui, je sais.
Avec un petit peu de cliché.
Oui.
Le gentleman trappeur.
Mais oui, gentleman trappeur. Moi, j'ai vu ça comme de la poésie.
Oui.
Et je me suis dit que parfois, certains clichés font du bien, d'un côté ou de l'autre de l'océan. Combien d'années on a vécu avec l'idée du béret et de la baguette sous le bras?
Voilà.
Bon, je veux dire, on a
les clichés sont bien échangés,
bien
partagés.
On a tous nos clichés, mais j'ai vraiment vu une grande différence dans les 15 dernières années où, d'un côté et de l'autre de l'océan, on a appris à s'aimer, à se respecter, à s'inspirer les uns des autres. Il y a au-delà de 100 000 Français qui ont immigré au Québec dans la dernière année et demie. Ça a changé la dynamique de la ville de Montréal pour le mieux, parce que ça insuffle aussi une nouvelle vie à des bistrots, à des cafés, à des boulangers.
On a eu l'occasion d'en parler dans une émission, il se passe des choses particulièrement excitantes en termes de terroir et d'énergie culinaire, d'effervescence culinaire à Montréal et dans tout le Québec, et ça c'est une très bonne nouvelle. On est dans les clichés, Ricardo, restons-y, on va même se vautrer délicieusement dans le sirop d'érable, avec une recette que vous avez eu la gentillesse de nous préparer, et on sait que vous n'êtes pas chez vous, vous avez dû vous organiser notamment avec l'école du cordon bleu
hier, je devais
pour préparer une recette qui marche à tous les coups.
Absolument, et qui est différente, mais qui utilise quand même le sirop d'érable. Hier, je donnais une masterclass justement à l'école Cordon Bleu devant des étudiants. Ah, oh, mais j'étais émerveillé, puis je me disais, quelle France incroyable. Il y avait devant moi aucun Français. Il y avait 80 étudiants de partout dans le monde, de Corée, de Chine, d'Inde, du Mexique, de Belgique, des États-Unis. Tous rêvent de la France, de sa cuisine, de cette espèce d'énergie que lorsque l'on maîtrise ces bases françaises-là, on peut appliquer en nos cuisines locales où on peut devenir créatif chez soi et avec une belle structure, une organisation, et ça n'empêche pas d'être créatif. Donc,
je suis mal poli, j'ai déjà commencé.
Oui, c'est parfait, j'adore ça.
Fini. C'est délicieux et vous savez quoi, la bonne nouvelle?
Oui.
C'est que votre filet mignon de porc, puisqu'il s'agit de porc, au sirop d'érable, est délicieux froid.
Ben, si vous faites de fines tranches, donc l'idée était très simple. On prend le mignon de porc, on va broyer des grains de coriandre fraîche. Vous pourriez toujours prendre la moulue si c'est ce que vous avez sous la main. Je frotte le filet avec vraiment avec les mains accrues. Mm-hmm. Ça, c'est important.
Absolument, vous le massez.
On le masse, ça y fait du bien. C'est son dernier vraiment soubresaut de bonheur avant de passer à la poêle. Et là, on va le rôtir à la poêle pour qu'il soit vraiment doré de toutes parts. On va terminer la cuisson au four. Mais avant, dans une casserole, je réduis. Et là, je ne vous donne pas toutes les quantités. Je suis certain que vous allez avoir ça sur votre site web.
La recette sera d'ailleurs sur le site internet de l'émission franceinter.fr à la page « On va déguster ».
Vous allez réduire bouillon de poulet et sirop d'érable en quantité égale. Et j'ajoute à ça. Puis ça, c'est génial parce qu'on n'avait pas ça au Québec avant. Puis j'arrêtais pas de dire pourquoi ils ont ça partout en France et on n'a pas ça, nous. Des betteraves déjà cuites sous vide. C'est le bordel de cuire ça. C'est pas intéressant. Tu viens de voir. Alors, vous achetez vos betteraves déjà cuites. Vous les coupez en petits dés. Hein? Un petit peu d'élégance. Vous allez les ajouter, ces betteraves-là, avec votre réduction sirop d'érable et bouillon. Et ce sera la base de cette sauce-là. Le filet caramélisé, vous le mettez dessus, vous mettez tout ça au four, une quinzaine de minutes. Nous, on aime bien servir le porc rosé.
Vous avez raison, surtout quand il est de qualité.
Surtout si vous voulez en faire des sandwichs, vous voulez le servir froid le lendemain en tartine, parce que là, vous allez pouvoir le trancher très finement. Et puis, avec ces betteraves-là, où il y a une touche d'érable, parce que souvent on me dit, mais on cuisine comment l'érable? Outre sur les crêpes, qui est une évidence. Nous, on utilise le sirop d'érable beaucoup entre le vin et le vinaigre balsamique.
C'est
dirais.
Ça. C'est parfumé. Ou le miel.
Ça ou le miel. Ah, sucré. Oui, exactement. Comme le miel, c'est encore un meilleur exemple. Oui. Et selon la couleur du sirop d'érable, de très léger à ambré, assez foncé, ben, on peut aller dans des plats beaucoup plus corsés, plus robustes. Mais c'est souvent pour mariner, ajouter une touche de saveur.
Franchement, c'est une très très belle découverte, cette recette. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie? Vous avez goûté?
Oui, j'ai mangé avec les doigts parce qu'on m'a donné une fourchette. Et c'est agréable de prendre les petits cubes quand même de betteraves. Bon, moi, je les préfère crues, les betteraves. Ça va, on a le temps de les faire. Hein,
non, mais si vous avez la patience, vous pourriez vraiment prendre des betteraves fraîches, les couper en petits dés et les ajouter au moment de la cuisson désirée. Alors, vous auriez des betteraves.
Les faire dans la cheminée, dans les braises.
Mais moi, il ne faut pas oublier, j'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire quand vous allez arriver ce soir crevé, après avoir tout donné à votre patron? Qu'est-ce qui va rester à vous?
C'est betteraves qui apportent en tout cas de la suavité et des petites notes terreuses. Merci beaucoup pour ce petit tonneau de sirop d'érable. C'est le cadeau de bienvenue de Ricardo.
Tant qu'à rester dans le cliché, qu'est-ce qu'on amènerait aux cousins français sinon du sirop d'érable?
Eh bien, ça me plaît parce que je vais me mettre, je peux vous dire assez vite, à ce filet mignon de porc caramélisé au sirop d'érable et je ne donnerai pas aux filles, tout simplement.
Don't
Inter, je déguste, tu dégustes, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
I Can't Stop Thinking About You, c'est le nouveau titre de Sting. Ricardo, un Québécois dans votre cuisine, 125 recettes faciles et rapides aux éditions Larousse. C'est le livre, votre premier livre d'ailleurs, qui sort sur le marché français.
Absolument.
Et vous entamez votre tournée française. Vous êtes de passage dans le studio de France Inter.
Et puis je suis honoré. Parce qu'on peut vous écouter sur balado distribution avec le web, tout ça. Mais
et on a pas mal d'auditeurs d'ailleurs au Québec qui régulièrement nous font signe.
Oui, absolument.
Ça va leur faire plaisir, votre présence sur notre plateau. Il y a une recette qui m'a intrigué dans votre livre, parce que l'on trouve aussi, et c'est tout le charme de votre répertoire culinaire, de vieilles recettes françaises qui sont par chez nous un peu tombés aux oubliettes.
Ouais.
La cuisine québécoise, c'est un peu comme le français du Québec. On y trouve
des
morceaux un peu vieillots.
Ouais.
Et c'est bien, justement.
Faut pas les oublier parce que c'est des belles grandes recettes qui sont souvent dans la simplicité. Là, j'ai une idée, je crois, où vous voulez aller en ce moment avec laquelle des recettes.
Mais déjà, j'ai demandé en fait je vais essayer de coller nos chroniqueuses pour savoir si elles ont entendu parler de cette vieille recette du répertoire français. Potage choisi. C-H-O-I-S-Y.
Par qui?
Hey, le potage choisi, hein, c'est la laitue. Et puis, c'est idéal pour faire un potage avec une laitue qui commence à flétrir.
Ouais.
Exactement.
Ah ouais.
Et puis, peu importe la variété, on met tout dans la casserole. Et je dis souvent, puis c'est important, on veut transférer nos connaissances à nos enfants. Il n'y a rien de plus simple que de commencer avec un potage parce que tu fais revenir un oignon, tu mouilles et tu ajoutes le légume au choix, unique ou plusieurs, dans ce cas-ci, de la laitue.
Car c'est le principe de choisir. Je suis allé faire un tour dans notre Larousse gastronomique. Cette expression, cette dénomination date quand même du début du 19e siècle et ça désigne divers apprêts comportant de la laitue dans le répertoire français. Donc, il y a l'omelette choisie avec effectivement une chiffonnade de laitue. Il y a la sole choisie qui est garnie de julienne de laitue et il y a votre fameux potage choisi.
Parce que la cuisine et la langue qui s'est créée en France autour de la cuisine est extraordinaire parce qu'il y a des termes pour tout, qui sont très précis. Il y a à peu près, tu sais, quand on pense du baril, bon, OK, ben, ça veut dire quelque chose. Quand tu vois ton menu, au lieu de tout le temps interpeller
le côté du chou-fleur, du baril.
Exactement. Alors, cette chère comtesse,
Absolument. Potage choisi, la recette.
Potage choisi. Donc, c'est simple. Un oignon, un peu de beurre, on mouille, on fait revenir. Lorsque l'oignon commence à être translucide, on mouille au bouillon et on va rajouter soit des morceaux de pommes de terre ou une ou deux cuillerées à soupe de riz pour pouvoir donner de la texture.
C'est ça.
Vous allez ajouter vos laitues grossièrement hachées, sel, poivre. Et là, vous allez mijoter quelques minutes pour que tout ça soit tendre.
Mm-hmm.
On passe au blender. Et ensuite, sel, poivre. Et là, au choix, vous pouvez crémer ou non. Alors,
Choisissez un peu de crème?
Moi, j'aime bien la crème. Oui. Crème beurre, je trouve que bon, hein, l'amour s'occupera de brûler toutes ces calories. Et mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette soupe-là est vraiment très bonne, chaude ou froide. Alors, l'été, froide, ce que j'aime, c'est que même je prends un peu de cette soupe-là, je la fais congeler dans les bacs à glaçons. Alors, vous ajoutez la même soupe, mais congelée dans la soupe froide.
Mm-hmm.
Et puis, c'est super. Vous servez ça dans une petite tasse sur la terrasse. Et puis...
Et on le redit très souvent quand on a sur les bras une laitue un peu fatiguée.
Ah, oui.
En général, elle finit au mieux dans le composteur, au pire dans la poubelle. Là, elle peut éventuellement finir dans le fait-tout pour ce fameux potage choisi.
Et vraiment, je vous dirais qu'il y a une douceur, une délicatesse dans la laitue qu'on oublie trop souvent. La seule chose à oublier, quand vous allez avoir vos invités la prochaine fois, ne mettez pas la vinaigrette. Laissez chacun s'occuper de la vinaigrette parce que sinon, votre laitue sera toute flétrie et inutilisable.
Ricardo, vous restez évidemment avec nous, c'est votre heure dans l'émission dont on va déguster. On ne s'éloigne pas trop du Québec avec Déborah qui nous rapporte un ouvrage aussi originaire de là-bas.
Effectivement, mon coup de cœur du mois de septembre parmi la grosse centaine de parutions est aussi un livre qui a une origine canadienne et québécoise, donc il s'appelle « Trois fois par jour ».
Ah, est-ce que ça dit quelque chose à Ricardo ?
Absolument, je connais très bien Marie-Lou.
D'accord.
Oui. Marie-Lou et Alexandre Champagne qui ont publié d'abord ce livre avec un éditeur canadien et puis là, donc ce sont les éditions Lamartinière qui l'ont introduit en France. Donc trois fois par jour qui coûte 29,90 €.
Vous me le faites passer ?
Je vous le fais passer mais vous me le rendez après hein, parce que c'est vraiment un livre sur lequel j'ai eu énormément de mal en fait à choisir la recette.
Pourquoi ? Tout vous faisait envie ?
Tout me faisait envie. Alors déjà, il y a une belle histoire derrière. Ce qu'il faut voir, c'est que Marie-Lou, en fait, a connu des gros troubles alimentaires, donc de l'anorexie, et s'est réconciliée progressivement avec le plaisir de manger, le plaisir de partager, la convivialité qu'il y a autour de la table. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire. Et ensuite, il faut avouer, quand on regarde le livre, on est frappé quand même par la beauté de la mise en page, les recettes qui sont toutes appétissantes. Donc j'aurais pu choisir les pancakes aux bananes, au beurre de cacahuète. J'aurais pu choisir la salade de pommes de terre, avocat, bacon et cheddar.
Oui, je suis passé dessus là. Effectivement, elle fait envie.
Est-ce que vous êtes arrivé sur la pizza aux oignons caramélisés, poulet, barbecue et chorizo ?
Pas encore.
Eh bien, c'est pas ça non plus ce que j'ai apporté. Aujourd'hui, je vous ai apporté tout simplement un petit gâteau à base de pâte d'amande.
Il est devant nous, dans nos assiettes.
Il est devant vous.
Sylvie est déjà en train de l'engouffrer.
Alors, je le respire.
J'avoue que j'ai été un peu dubitatif quand j'ai vu la recette parce que j'avais jamais vu une recette comme ça. Donc, on vous demande de mixer 3 œufs. 2 cuillères à soupe de jus de citron, le zeste de 2 citrons, 250 g de beurre fondu, hein, on est quand même sur quelque chose de consistant, 125 g de pâte d'amande et 1/4 de cuillère à café d'extrait d'amande amère. Donc on a une pâte très liquide, là-dessus on ajoute 160 g de sucre en poudre, 120 g de farine, et on fait cuire une demi-heure tout simplement à 180 degrés. Donc j'avais goûté la pâte crue en me disant, quand même ça m'interpelle ce côté mixé de la pâte d'amande. La pâte crue très bonne, donc là je me suis dit on va voir la texture. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais et nous ça a fait l'unanimité.
Ah, ça marche très bien.
Un moelleux incroyable.
On est entre le financier avec des petites notes en même temps agrumées, c'est vraiment très agréable. Puis, Ricardo,
l'idée de la pâte d'amande, c'est aussi un peu quand on se fait des tartes frangipane avec différents fruits souvent d'automne. Oui, c'est bien. Puis le citron, ça plaît. Hein. Il y a une tendance sur l'agrume qui est toujours agréable.
Ça allège et ça rafraîchit effectivement le goût de l'amande et les proportions de beurre qui sont quand même assez caloriques.
Et c'est vrai que c'est un petit gâteau qui peut tout à fait se conserver, s'offrir. D'ailleurs, elle dévoile bien en fait dans les différentes recettes. Elle a certaines recettes pour offrir. Et d'ailleurs, sur le site internet, j'ai mis un autre coup de cœur comme recette. On repart aussi un peu sur le thème de la soupe. Elle propose une soupe de lentilles, orge et épices à offrir aux gens qu'on aime. Donc en fait, elle met tous les ingrédients secs dans un joli bocal. Et le bocal est offert avec une petite notice qui indique juste la quantité de tomates concassées en boîte, d'eau à rajouter et le temps de cuisson. Et donc vous pouvez offrir ça aux gens que vous aimez.
Les carrés à la pâte d'amande et au citron signé Marie-Lou, c'est donc une foodista québécoise, hein, peut-on dire.
Qui a effectivement aussi un site internet qui fonctionne très bien.
Avec Alexandre Champagne et dont le livre est édité aux éditions de La Martinière.
Oui.
Quand j'ai pris mes quartiers sous Jack dans le Nouveau Monde, il faisait déjà moins 6, on était au mois de novembre. Mon pote Daniel m'attendait sur le tarmac, je lui dis je suis gelé, il me fait t'as fumé tabernacle. On va prendre mon char pour rejoindre Montréal, je me suis mis en compagnie de Bénure derrière un cheval. Puis il me dit faudra qu'on s'arrête au dépanneur, je fais ah bon t'entends un bruit bizarre dans le moteur. Je lui dis que j'ai la dalle, il me dit dalle de ciment, puis finit par comprendre on s'arrête au restaurant. Il me fait ici font des hamburgers et des goodies Michigan. Ah bon, on va faire simple, je vais prendre ce que tu prends. En regardant mes frites en sauce j'ai fait grismi. Il me fait bah quoi, y'a un tchétchène dans ta poutine? Non, c'est très bon, mais c'est un peu écœurant. Il me répond, j'étais sûr que t'allais trouver ça tripant.
Maudit français,
disent pas tous la même chose.
Maudit français,
ça dépend de quel côté on se pose.
Maudit français,
c'est pas toujours la même prose.
Maudit français,
quand tu jases, moi je cause. Il me présente
présente un pote, il était vert fluo. J'ai vu des ours blancs et des orignaux. On rentre dans un bar, me fait qu'est-ce qu'il veut, y'a le water. J'ai pas envie de pisser, appelle plutôt le serveur. On nous sert deux bières avec Charlebois sur l'étiquette. J'aurais rêvé d'avoir 15 bourses sur mon anisette. Puis je croise le regard d'une fille à côté. Il me dit va creuser la blonde, sois pas génie. Je finis par l'accoster, elle me dit qu'est-ce que tu veux, hostie. Je réponds, je suis pas baptisé, non merci. Je propose de sortir fumer, elle me dit t'as une smoke. J'suis plutôt jean basket, elle me dit c'est quoi, c'est une joke. C'est bizarre comme tu jases, fais un break. Oh tu sais, moi je suis plutôt dans le rap musette. Disent pas tous la même chose. Ça dépend de quel côté on se pose. C'est pas toujours la même prose. Quand tu jases, moi je cause. Dans la rue, j'ai eu des élans romantiques. Mais y'avait pas de fleuriste, alors j'ai improvisé. Je ramasse de jolies feuilles d'érable, elle me dit je m'en corlisse. J'aurais préféré un bouquet de fleurs de lys. Viens chez moi, mais je te préviens, j'ai un chum. Bah c'est normal avec ce froid d'attraper un rhume. Arrivé chez elle, elle me dit tire-toi une bûche, tu capotes ? Genre un préservatif. Espèce de quétaine, range ton bébé, le salaud. Je comprends pas, c'est pas moi qui a demandé. C'est donc comme ça que tu m'aimes-tu ? C'est plutôt sans capote, elle m'a jeté à la rue. Disent pas tous la même chose. Ça dépend de quel côté on se pose. C'est pas toujours la même prose. Quand tu jases, moi je cause. Malgré ces quiproquos, j'ai trippé comme un dingue. De Québec, ville jusqu'à la BTB, Témiscamingue. J'ai rencontré dans ce pays des résistants qui pratiquent avec finesse le langagement. La belle province, je suis en amour. Et comme dit Richard,
quand j'aime une fois, j'aime pour toujours.
On va déguster.
Restons au chapitre sucré avec... Ah ouf, comment définir cette recette? C'est une espèce de truc ovniesque, orgiaque, vaguement flottant.
Oh, j'ai goût d'en manger déjà, la description est bonne.
Qui fait... terriblement envie, qui porte le nom anglo-saxon de pudding, mais c'est bien plus que ça.
En fait, c'est vraiment un gâteau très moelleux au chocolat qui va cuire sur une sauce au chocolat.
Mais attendez, c'est une vraiment... flottante de
donc,
chocolat.
Oui, alors, et c'est que c'est archi simple à faire. En fait, vous pourriez faire ça avec n'importe quelle recette de gâteau au chocolat. L'idée, c'est de se faire une sauce qui est faite de cassonade, de cacao, un peu de fécule de maïs pour que ça se tienne bien, de l'eau, de la crème liquide, un peu d'extrait de vanille, et vous allez porter tout ça à ébullition et la pâte à gâteau au chocolat va être déposée sur cette sauce et on va enfourner. Ce qui fait que quand vous allez, avec une cuillère, prendre un gros morceau de ce pudding...
Attendez, la photo est dingue.
Il va y avoir le chocolat qui coule dessous. Vous pouvez le lendemain y redonner quelques secondes au micro-ondes pour le regarder fumant encore et coulant.
Le lendemain, vraiment?
Ben ça, c'est rare. Mais des fois, j'en fais deux parce que c'est le genre de truc qui s'apporte vraiment bien. Vous, ici, les enfants vont à la cantine à l'école, nous, il faut apporter un lunch. C'est pas toutes les écoles qui ont une cantine, mais au travail, au bureau, tu veux en jeter, tu veux impressionner les copains. Là, tu réchauffes ton morceau de pudding comme ça, fumant. Puis à la maison, je rajoute de la glace à la vanille en
plus.
Puis
vous allez faire un jogging de 2 heures pour... éliminer ensuite, non?
Moi, je réfléchis pas à ça.
Oui, vous avez raison. Non, mais c'est pas du tout, c'est même tout à fait light hein, comme recette.
Mais c'est vraiment un beau dessert qui est pas trop sucré parce que vous prenez un beau cacao amer. Alors, ça coupe dans le sucre. En fait, ça donne au moins l'impression de couper dans le sucre. Mais il y a très peu de gras. Hein.
Ce que j'aime dans votre recette, c'est la petite histoire typiquement québécoise qui se cache derrière. Car ce pudding flottant sur une sauce au chocolat, on a compris que c'est donc une espèce de dessert qui est à mi-chemin entre l'île flottante et le gâteau. Cru cuit en quelque sorte.
Ouais.
Ça vous rappelle un hobby que vous pratiquez?
Ben un hobby. Manger, vous parlez?
Non. Je parlais de la cabane sur la glace.
Ah! L'hiver, c'est un truc qui ne peut pas exister ici, qui pourrait exister peut-être en Scandinavie. C'est qu'au moment où, au printemps, à la fin de l'hiver, la glace a 1 mètre d'épais et demi sur la rivière Sainte-Anne. Et il y a les poissons qui vont frayer, qui vont remonter. Des poissons qui ressemblent à des petites sardines, je vous dirais.
D'accord.
Et là, on va mettre des petites cabanes en bois et on va à la pêche sur la glace. cette cabane en bois a un espace où il n'y a pas de plancher. Là, on va faire un trou dans la glace. On descend des lignes à pêche. On sort les poissons. Et là, on les fait que griller dans le beurre. On retire l'arête dorsale. C'est vraiment super bon.
Mais comment vous voulez qu'on vous enlève votre étiquette de gentleman trappeur? Sincèrement, quand on entend des histoires pareilles...
Oui, mais c'est parce que ça, c'est comme si tu me dis, j'ai un ami qui va à la chasse à la palombe. Oui, c'est exotique. Est-ce que c'est la majorité des gens?
C'est vrai.
Non, c'est un truc qu'on aime. On y va peut-être une fois aux 3 ans. Tu sais, Montréal, c'est urbain maintenant. Là. Ce million de personnes-là, il y en a plusieurs qui sont jamais allés dans leur vie. Mais moi, mon métier, c'est de manger, c'est de découvrir tout ça. Alors, c'est le bonheur parce que je fais des trucs que c'est pas tout le monde qui va faire.
Vous appelez ça la pêche au poisson des chenaux?
Ouais. Exactement.
Au poisson des chenaux, en fait.
Oui.
En québécois, ça donne la pêche
au poisson des chenaux.
C'est ça. Oui. Et c'est précisément ce hobby, cette pêche, qui vous a inspiré, en fait,
ce pudding
flottant.
Parce que souvent, dans une cabane comme ça, t'as juste un poêle à bois. Alors, je voulais que ça puisse se cuire.
Sinon, ça fait fondre la glace.
C'est un autre truc. Ça, c'est tout le vin et ce qu'on va boire dans la cabane. Mais au Québec, on a un pudding qui ressemble à ça. Et c'est un pudding chômeur. On l'appelle le pudding chômeur parce que c'est un truc, un gros dessert qui coûtait peu de choses. Pâte à gâteau à la vanille, mais dessous, au lieu d'être au chocolat, c'est cassonade, crème, sirop d'érable. On en fait une sauce. Et là, sous votre gâteau vanille, t'as cette sauce-là qui goûte le ciel, quoi.
Le pudding chômeur. On remet encore un truc au-dessus ou pas?
On aime bien les trucs au-dessus.
Le pudding chômeur, grande spécialité québécoise. Vous évoquez il y a un instant les verres à boire, le vin. Mm-hmm. Eh bien, ça tombe bien.
Sur France Inter, va déguster.
Sylvie, aujourd'hui, on fait une petite pause avec vous et on quitte le Québec de Ricardo pour nos vignobles à nous en France qui, malheureusement, font un peu la grimace. Le métier de vigneron est quand même un métier à risque, on va le comprendre avec vous. Un métier météo-dépendant et côté météo...
On n'a pas été gâtés.
Voilà,
bon, vous n'avez pas été très gâtés. C'est pas le Québec, c'est pas le Canada, mais c'est pour ça qu'on ne fait pas de vin là-bas, d'ailleurs.
Bon, on en fait maintenant.
Oui, c'est bien, mais
de
c'est
plus
pas
en
facile.
Plus à cause du grâce ou à cause du réchauffement climatique.
Oui, mais c'est quand même ça, c'est quand même pas facile. Et...
Non. Mais le climat, ça a été terrible pour beaucoup de monde cette année.
Ouais.
Pour plusieurs cultures. Nous, on est très fort dans la pomme aussi. Et puis, il s'agit d'un petit gel au mauvais moment.
Alors, revenons en France, Sylvie.
Eh bien, oui, en France, ça n'a pas été très simple. Il y a une vigneronne qu'on aime beaucoup autour de cette table, qui s'appelle Michel.
Domaine Gramenon.
Domaine Gramenon, dans le Rhône. Voilà.
Dans le Rhône, oui. Et je sais d'ailleurs qu'elle nous écoute souvent.
Et alors, on l'embrasse. Et Michel, elle a une jolie phrase. Elle dit, quand on débouche une bouteille, on ouvre une fenêtre sur l'année qui vient de s'écouler.
C'est ça.
Alors, ça fait un peu carte postale, ça rappelle les vacances. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos vacances. Oui, effectivement, l'été était beau. On avait envie d'aller un peu plus au nord. Mais les raisins, eux, ont eu très chaud. Il n'a pas plu. Et ça a fait des raisins tout petits pour ce qui a été ramassé déjà dans le sud, dans le Rhône, etc. C'est des récoltes déjà parfois à demi. Voilà. Bon, ça reste du soleil. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez du printemps aussi. On a eu du mal à mettre des jupes printemps dernier.
Oui, cauchemardesque.
Ouais. Alors le vrai cauchemar, il a commencé dans les vignes mi-avril avec des grands gels. Des gels dévastateurs dans certaines régions. On a beaucoup parlé de la Bourgogne, de Chablis. Mais dans des vignobles plus simples, on va dire, moins médiatisés, malheureusement, où on vend le vin un peu moins cher. Ça a été assez dévastateur du côté de Bourgueil, Chinon... Puis ensuite, on a eu beaucoup d'eau, qui a favorisé aussi des maladies. Dans la vigne, la pire des maladies s'appelle le mildiou, c'est un champignon, donc eau.
Qui se développe en particulier dans un contexte d'humidité importante.
Voilà, celui qu'on a eu au printemps.
Voilà.
On a aussi, je pense pas que vous ayez mangé beaucoup de très très bonnes tomates cette année. Voilà, c'était la même histoire.
Elles étaient un petit peu moins bonnes, en effet.
Ouais, elles commencent maintenant. Et puis, on a eu du violent, après violent méchant, beaucoup de grêle. La grêle, c'est nuage, c'est très localisé. Il y en a eu aussi encore en Bourgogne, il y en a eu à Cognac aussi, ça a été dévastateur. Et il y en a eu dans le Beaujolais, donc des vignobles aussi encore un peu plus compliqués à valoriser. Du côté de Chirouble, Morgon, Fleury, et elle est revenue 10 jours plus tard pour finir le boulot. Et là-bas, on ne connaît pas dans les villages des gens qui avaient vu ça. Quoi.
C'est un peu cata, là. C'est un peu le Beaujolais, effectivement, pour les vendanges sont plutôt
Ça va être tranquille. Il n'y aura pas grand-chose à ramasser.
Y a-t-il des solutions, justement, pour lutter contre les caprices du ciel?
Alors, il y a des solutions. Il y a prier, danser.
Oui, ça, effectivement.
Voilà. C'est ce qui revient le moins cher, parce que malheureusement, les solutions, elles sont souvent assez coûteuses. Parfois, bon, après, il y a des inventions de d'iodure d'argent qu'on diffuse. On ne sait pas encore si ça marche bien.
Et ça, c'est pour réduire le gel,
Ça, c'est pour
dissoudre
les grêlons.
D'accord.
Pour qu'ils arrivent au sol plus petits.
Plus petits,
Waouh.
Et il y en a une autre aussi, c'est les filets de protection. Mais bon, c'est 15 000 euros l'hectare.
Oui, d'accord.
Plus donc, installation. Donc,
quand on est un jeune vigneron, qu'on a des petites surfaces, on n'a pas forcément les moyens de ces investissements.
C'est pas très bon. Après, pour le gel, on a des bougies, on peut installer des éoliennes, mais ça, c'est très localisé. Mmh. Ça marche pas sur des grandes surfaces. On peut aussi arroser, mais c'est très coûteux. Brumiser pour faire tomber la température. Évidemment, il y a des assurances. Oui, il y a des assurances qui engraissent pas mal d'assureurs.
Bien sûr, mais tout le monde veut passer les payer.
Mais
en
les
plus.
Assurances, c'est très, très cher.
Ouais. Voilà.
Donc on préfère, l'idée des vignerons depuis toujours, c'est d'avoir toujours un stock en cave qui va compenser, c'est l'assurance gel quoi.
Absolument.
Voilà. Mais c'est pas possible pour les jeunes.
Et oui, on se rend pas compte à quel point effectivement l'artisanat, le fait d'être vigneron peut être ce métier à risque qu'on évoquait avec tous les aléas climatiques qu'il rencontre. Vous tirez un coup de chapeau à une appellation précisément
qui a beaucoup souffert, Mont-Louis, qui a beaucoup souffert, d'autant que je vous le disais, c'est grouillant de jeunes, c'est plein de jeunes qui sont venus s'installer depuis une bonne dizaine d'années et qui souffrent même depuis plus de 3 ans là, qui ont vraiment pas eu de chance et cette année particulièrement pas.
On est où exactement?
Alors on est à Mont-Louis, on est en face Tours.
Oui.
Voilà, en face Vouvray aussi, qui est une appellation plus prestigieuse et qui n'a pas trop gelé ni grêlé. Bravo.
On a le droit de goûter ou pas?
Oui, on va goûter. Alors Mont-Louis, c'est essentiellement du Chenin.
Du Chenin, évidemment.
Il y a très peu de rouge. C'est le cépage de la Loire. Bon, je ne pense pas qu'on fasse meilleur. Hein. Et là, on est chez Lise et Bertrand Jousset. Donc, on en a bien souffert, qui n'ont pas grand-chose cette année, qui en plus se sont fait avoir derrière par le mildiou, qui a été dévastateur et...
Et qui n'ont pas beaucoup de stock des années précédentes, parce qu'ils avaient aussi souffert les derniers
millésimes. Voilà. Et puis, de toute façon, on ne peut pas garder stock. Je vous passe les verres. Donc là, on est sur des vignes... On est sur un vin cher, voilà. C'est ça aussi que je voulais vous amener.
Combien?
On est sur un vin à 25 euros.
D'accord.
Donc, mais c'est un vin qui a fabriqué et digne du boulot qu'on fait dans les plus grandes vignes bourguignonnes. Voilà, c'est une parcelle... C'est 3 parcelles d'un hectare et quelque chose qui sont réunies parce que c'est des vignes qui sont très vieilles, entre 80 et 100 ans, et qui dit vieille dit peu généreuse. Voilà, ça fait pas beaucoup de grammes. Mais c'est aussi une parcelle sur laquelle les vignerons, justement, avaient envie de travailler dignement et de se donner les moyens de faire les choses bien. Donc, il est passé au cheval sur ces vignes-là.
Ah, carrément.
Ouais. C'est aussi ces vignes-là qui lui ont donné envie de faire de la biodynamie.
Mm-hmm.
Voilà. Mais c'est aussi, vous avez goûté?
C'est magnifique. Qu'est-ce que...
On retrouve toute l'expression aromatique du chenin, mais sans les, avec en même temps une très belle fraîcheur.
Et pourtant, il est chaud.
Hein.
Température studio.
25 euros au Québec, nous, c'est tellement cher.
Ça va arriver cher,
que je me dis, ce serait une aubaine, vraiment, pour nous. Là.
Mais c'est vrai qu'en France, on considère que c'est quand même un certain budget, mais il faut comprendre encore une fois que c'est proportionnel.
Derrière ça, il y a un travail.
Au coût humain, et effectivement, à l'aléa climatique à la peine, de vignerons qui se retrouvent parfois avec des vendanges extrêmement faibles.
Mais cette année, il n'aura rien. C'est pour ça qu'il est allé chercher cette année des raisins dans le sud.
Vous nous rappelez
l'aventure.
Vous nous rappelez les références de ce chenin exceptionnel?
Alors, ça s'appelle Clos au Renard, et c'est un 2014 de chez Lise et Bertrand Jousset.
On peut le trouver où?
On peut le trouver à Paris, on le trouve pas mal. Hein.
D'accord.
On peut le trouver au Québec aussi. Hein.
Oui.
C'est importé. Hein.
Oui. On le trouve en région aussi, j'espère.
Ah bah évidemment qu'on le trouve en région.
Merci beaucoup Sylvie Augereau. On finit par comme ça, des petits trucs, des tours de main, des petites recettes très rapides à expliquer, Ricardo.
Le premier truc, je dirais, c'est que à la maison, on n'est pas des restaurateurs. Si on aime une recette et qu'on veut la transmettre à nos enfants, faut la faire souvent. Mmh. Alors ça, c'est un point très important. Mmh. Alors dans mon livre, ce que je voulais faire, c'était justement de reprendre des recettes que l'on connaît, que l'on aime, leur donner une saveur nord-américaine, mais rester dans la simplicité. On arrête au supermarché, on peut avoir, il nous manque 2-3 ingrédients, le reste on l'a sous la main.
Absolument. Quelques recettes rapides, justement, qu'on peut faire régulièrement et éventuellement transmettre à ses enfants. Un beurre au miel et à l'orange. C'est moi qui choisis,
oui.
Ricardo.
Ah, c'est vous. Parfait. Oui, mais écoute, il y a tellement des beurres extraordinaires locaux en France. On prend le beurre que l'on aime, on ajoute du miel, on rajoute un peu de jus, parfois si on veut, une touche de zeste, on fouette. C'est tout. Tout ça va s'émulsionner.
Pour le brunch.
Pour le brunch, sur des rôtis, sur un croissant. C'est toujours magnifique.
Des rillettes de truite fumée.
Encore une fois, tous les deux, de chaque côté de l'Atlantique, on a des truites fabuleuses. Mais de la transformer avec un peu de gras, à lui donner une texture, de pouvoir la faire en tartine, en crouton, à l'apéro, on a quelque chose de local et qui aura la saveur et du Québec et de la France en même temps.
Le secret de la rillette, c'est un petit peu de mie de pain,
un
petit peu de beurre, un petit peu de crème.
Parce qu'il faut savoir que la truite, c'est assez sec. Mmh. Alors, il faut y ajouter une matière grasse. Alors, pourquoi pas du bon beurre?
J'aime beaucoup votre recette assez décomplexée de coq à la bière et au chorizo. On parle évidemment du coquillage.
Oui, ben ça, c'est quelque chose que nous, on fait sur le bord de la plage aux îles de la Madeleine. Alors, tu vas à la pêche au coq. Dans une poêle, encore une fois, tu peux faire revenir de l'oignon. Tu as de la saucisse chorizo qui va donner et le sel et le côté piquant. Et tu déposes tes coques-là qui vont ouvrir, relâcher leur jus naturel avec un morceau de pain de campagne là-dedans. C'est le bonheur.
Et plein d'autres recettes à retrouver dans Ricardo, un Québécois dans votre cuisine. 125 recettes faciles et rapides aux éditions Larousse. Bonne tournée française.
Ben merci.
À la revoyure.
À la revoyure, à bientôt.
J'espère vous voir très bientôt au Québec. Merci d'avoir d'avoir apporté votre énergie sur notre studio. On continuera à vous suivre aussi sur votre site internet ricardocuisine.com.
Merci.
On peut retrouver toutes les recettes que vous avez évoquées dans cette émission sur franceinter.fr à la page On va déguster ainsi que nos infos pratiques. Merci Déborah Dupont. Merci Sylvie Augereau, à la prochaine.
Enchantée.
Et dans un instant, juste après le flash de midi, place à Question politique avec Nicolas Demorand. Bon appétit et à dimanche prochain, si vous avez encore faim.